Actes chapitre 20. Je vous fais la lecture jusqu'au verset 17. Lorsque le tumulte, c'était à Éphèse, lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Puis il se rendit en Grèce où il séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et Seconde de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tychique et Trophime, originaires d'Asie. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe et, au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas où nous passâmes 7 jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et, quand on voulut le relever, il était mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi il partit, le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Pour nous, nous précédâmes Paul sur le navire et nous fîmes voile pour Azos, où nous avions convenu de le reprendre parce qu'il devait faire la route à pied. Lorsqu'il nous eut rejoint à Azos, nous le prîmes à bord et nous allâmes à Mytilène. De là, continuant par mer, nous arrivâmes le lendemain vis-à-vis de Chios. Le jour suivant, nous cinglâmes vers Samos et le jour d'après, nous vîmes à Milet. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Alors là, ici c'est un des passages dans le livre des Actes où l'on retrouve la première personne du pluriel, le « nous ». Cela veut dire que Luc, qui est l'auteur de ce livre, a pu rejoindre Paul et donc on a tous les « nous », ça fait bizarre de les lire, « nous passâmes »,« nous cinglâmes », »,« nous vîmes ». Voilà, mais c'est comme ça, le français, comme on m'a appris, le passé simple. Mais ce matin, nous allons profiter du regard de Luc pour mieux comprendre l'histoire merveilleuse de la progression de l'Évangile et de l'Église, parce que là, il est vraiment sur place et il nous donne une richesse de détails. C'est vraiment du vécu pour lui et on veut voir les choses à travers son regard. Donc ce matin, je pense qu'il faut écouter Luc. Luc d'abord l'historien, ensuite Luc le médecin et enfin Luc le chrétien. Voilà comment on va profiter de ce passage. Luc l'historien, il faut écouter Luc l'historien, ensuite écouter Luc le médecin, et enfin écouter Luc le chrétien. Ici nous avons le récit d'un historien, Luc l'historien, c'est comme ça que Luc s'est présenté dans l'introduction de ce livre, et puis son évangile, l'évangile de Luc. Il s'est présenté ainsi à Théophile, cet homme Théophile, à qui est adressé ces 2 livres, Luc et le livre des Actes. Et Luc lui a dit, voilà, je t'écris ces choses parce que moi, j'ai fait des recherches exactes sur toute cette histoire de Jésus-Christ, sur toutes ces choses, pour te les exposer par écrit d'une manière suivie. Donc ça, c'est vraiment le travail du historien. J'ai fait des recherches exactes pour te les exposer d'une manière suivie. Alors Luc se positionne comme un historien à la recherche des faits, des témoignages, du vécu. Et c'est ce qui rend le livre des Actes si puissant, et c'est ce qu'on aime finalement dans de tels passages que nous avons lus ici en chapitre 20. Parce que l'ensemble de détails et de précisions, c'est ça qui rend la richesse de la chose. nous avons tant de précision, c'est ça qui est étonnant. On nous donne les prénoms, beaucoup de prénoms. On nous donne la géographie. On nous donne les lieux d'origine de différentes personnes. On nous donne un peu la chronologie, la durée des jours, 5 jours, 7 jours, et puis il fallait se dépêcher pour arriver avant la Pentecôte. Et puis bien sûr, cette réunion de dimanche à Troas, riche en détails, il dit qu'il y a beaucoup de lampes, il dit qu'ils sont au troisième étage, on parle de cet Eutychus, un jeune homme qui est assis au bord de la fenêtre, qui s'endort pendant le long discours de Paul. Voilà, tous ces détails, c'est comme si on peut le vivre nous-mêmes. Après, dans les versets après, 13 à 17 que nous avons lus, tous ces détails sur la navigation maritime de l'époque, tous ces ports dans lesquels ils ont passé la nuit. Donc tout ça, c'est très riche. Luc nous donne beaucoup de détails en tant qu'historien. Et c'est ça qui est intéressant pour nous ce matin, pour notre foi. La plupart considèrent la Bible comme un recueil de légendes, de mythes, tout ça, écrit par des personnes qui ont vécu beaucoup plus tard, au 3e, 4e, 5e siècle, et qui inventaient une belle histoire. Mais est-ce que c'est ce que nous voyons ici? Loin de là. Aujourd'hui, vous savez, on peut faire des recherches sur Internet, on peut aller dans les bibliothèques pour découvrir des choses, découvrir des détails, mais à l'époque, ils n'avaient pas ça. Donc, pour que Luc nous donne tous ces détails, on est obligé de comprendre que soit lui-même, il les a vécus lui-même, ou il a demandé à quelqu'un qui les a vécus. Par exemple, vous, même comme ça, est-ce que vous sauriez que l'on peut aller de Philippe à Troas en 5 jours à cette époque de l'année? Combien de temps ça prend pour aller de Philippe à Troas à cette époque de l'année? Est-ce qu'on peut faire Troas à Azos à pied dans le même espace de temps que peut faire un bateau? C'est ce que Paul fait. Ses amis ont pris le bateau, lui, il marchait à pied. Donc ça, c'est un peu étonnant. En général, on prend le bateau parce que c'est bien plus loin que marcher. Est-ce qu'on peut faire de Troas à Azos à pied? Est-ce que vous sauriez dire ça si vous écrivez une histoire sur la Turquie? Est-ce que vous connaîtrez de tels détails? Beaucoup savent, d'entre vous savez que je viens de la Californie. Alors, je connais un peu la géographie californienne, parce que c'est là où j'ai grandi, mais peut-être vous ne connaissez pas moins bien. Est-ce qu'on peut faire San Francisco à San Diego à pied? Est-ce que si j'ai, voilà, mes amis ont pris le bateau, moi j'ai marché. Si vous connaissez la géographie, là il y a un problème. Là il est en train d'inventer une histoire parce que San Francisco c'est tout au nord, San Diego c'est tout au bas. Mais peut-être deux autres villes, c'est tout à fait possible. Si je disais, moi je suis parti de San Francisco à Oakland à pied et mes amis m'ont rejoint en bateau, là c'est possible parce qu'en fait c'est juste un petit pont qui les rejoint. Donc, des détails comme ça, il faut les avoir vécus pour pouvoir les transmettre. Je vous donne une autre illustration pour montrer comment fonctionne notre Bible, la Bible inspirée. Vous savez que la semaine dernière, il y a 2 semaines déjà, j'y suis parti enseigner à l'Institut biblique d'Algrange, petit village là, Algrange. Et quelqu'un pourrait dire, mais non, tu n'es pas vraiment parti, je pense t'avoir vu à Toulouse même, tu exagères, tu inventes, tu veux juste faire croire que tu t'occupes et tout ça. Alors qu'est-ce que je pourrais dire pour vous convaincre que j'étais vraiment à Algrange? Bon, je pourrais dire de telles choses, je pourrais dire, mais si, le dimanche après-midi, j'ai pris un vol, Lufthansa, après on est passé par Munich, et de Munich à Luxembourg, et puis de là, on est venu me chercher à l'aéroport, c'était Richard, un frère Richard qui est venu me chercher à l'aéroport, et là où il a garé la voiture, c'était ce stationnement gratuit pendant la première 30 minutes, comme ici à Toulouse, mais là-bas, ils appellent ça le kiss and fly, donc vous avez le temps de faire un bisou à votre conjoint, même si vous êtes vraiment amoureux, on vous donne 30 minutes, et après vous pouvez prendre la voiture. Donc après, avec Richard, on est allé rejoindre sa femme, elle s'appelle Karine, et puis son fils Benjamin. Benjamin, il est toujours touchant, parce qu'il te salue une grande salutation, et c'est un enfant, c'est un garçon trisomique, mais c'est toujours une joie de voir sa foi et son accueil, il salue tout le monde chaleureusement. Et puis là, après, je suis allé à Algrange, puis dans la salle de cours d'Algrange, la salle de cours, c'est une bibliothèque, et les étagères de la bibliothèque sont turquoises. Tout est turquoise. C'est curieux comme couleur, mais voilà, c'est comme ça. Et puis, sur le mur, ils ont ce verset. Moi, j'ai enseigné cette semaine l'évangile de Jean. Donc, sur le mur de la salle de cours, il y a juste une phrase tirée de la conclusion de l'évangile de Jean. C'est cette phrase que nous-mêmes, à Toulouse, on a vue la semaine dernière avec Olivier Bourrel, le frère de Vincent. Dans la fin de Jean, où la phrase Jésus demande à Pierre « M'aimes-tu ?» M'aimes-tu, donc c'est écrit « M'aimes-tu ?» sauf que le T manque, donc ça dit « M'aimes-tu ?» Mais voilà, c'était la phrase de Jean, et moi j'ai enseigné le cours de Jean, donc c'était pas mal. Alors qu'est-ce que je viens de vous faire ? Je viens de vous raconter quelques détails, mais c'est détails suffisamment précis pour « Vous avez tout raison de me croire. Peut-être j'invente tout ça. » Mais je fais fort pour vous donner tous ces détails. Alors, vous pouvez vous vérifier. Si jamais les étagères à Algrange ne sont pas turquoises, voilà. Mais le fait qu'ils sont turquoises et que j'ai retenu ce détail, c'est fort. Mais c'est ce que nous avons ici dans ce passage. Tout le livre des Actes et toute la Bible même, et surtout les évangiles, fonctionnent comme ça. Ils nous donnent ce genre de détails pour qu'on puisse apprécier le vécu, le témoignage réel. Aujourd'hui, c'est les élections législatives, donc on pense un peu à nos autorités. Mais justement, dans le livre des Actes, c'est un petit détail qui ressort, c'est que quand Luc raconte l'histoire des chrétiens, l'histoire de la première église, effectivement, l'histoire de Paul, il avait souvent affaire aux autorités de différentes villes, parce qu'il était embêté, il était arrêté, et donc il devait faire face aux différentes autorités de la ville. Et ce qui est très fort dans ce livre, c'est que dans différentes villes, dans différentes régions de l'Empire romain, on peut comprendre que les autorités de chaque ville n'étaient pas appelées, nommées de la même manière. Et ça, c'est même une réalité pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, vous votez les députés, il me semble. Mais là où j'ai grandi, on ne parle pas de députés, on parle de congressmen et senators et tout ça. Donc, chaque pays, chaque région va appeler ses autorités peut-être de manière différente. Et dans le livre des Actes, quand ils sont à Philippe, par exemple, il s'agit de lecteurs. Et puis dans une autre ville, Paul va dire que les autorités s'appellent des Asiaques. Et dans une autre ville, il va les appeler les Polytarches. C'est un mot un peu technique, mais Polytarches, lecteurs, Asiaques. Eh bien, l'archéologie, l'histoire confirme qu'effectivement, dans ces villes, c'est ainsi que s'appelaient les autorités sur place. Et ça pouvait changer de ville en ville. Donc, pour réussir tout ça, si on invente une histoire et qu'on n'est pas sur place, il faut être très fort. Donc, en tant qu'historien, voilà ce que déjà il faut écouter Luc en tant qu'historien. Et s'il veut vraiment raconter ce qu'il a vécu, s'il va interroger les témoins, s'il s'intéresse vraiment aux faits, avons-nous une raison de le croire quand il raconte les histoires de bateaux et tout ça, et ne pas le croire quand il raconte les histoires de résurrection? Et c'est ça la réflexion. Si Luc, en tant qu'historien, veut nous donner toutes les précisions, tous les détails, tous les faits, toutes les vérités, et que dans son récit, on trouve aussi des histoires de résurrection, de miracles comme ça, qu'est-ce qui nous permet de dire, là, c'est sûr qu'il raconte vrai, et là, il invente, il exagère. Mais c'est pas comme ça qu'il se présente. Donc, on a tout raison de croire, quand il parle de ce Eutychus qui a connu une résurrection, en tout cas une ressuscitation, il était mort, il revient à la vie, donc on a tout raison de le croire. Et bien plus, on a tout raison de croire quand Luc raconte au cœur de ses écrits, c'est la résurrection de Jésus-Christ qui est au cœur de notre foi, et il va nous donner ce même genre de détails, de souvenirs, de faits, de témoins, pour nous en convaincre que c'est la réalité. Parfois, cette époque, les gens, on accepte facilement parfois les faits, on va dire, géographiques ou scientifiques, mais les faits miraculeux comme la résurrection, ça, on dit non, ça, on n'accepte pas. Mais ces premiers témoins, ils se présentaient comme des témoins fiables de la chose. Il y a dans le premier livre du Narnia, si vous avez lu ces livres, Narnia, il y a la petite fille Lucie, Elle vit quelque chose d'incroyable. Un jour, pendant un jeu de cache-cache, elle se cache dans un armoire. Et puis, cette armoire, il se trouve que ça conduit à un autre monde, le monde de Narnia. Et donc, elle pense être cachée dans un armoire avec juste des manteaux. Et puis, elle se trouve dans la neige, dans la forêt, tout ça. Et ainsi commencent les aventures, les fameuses aventures à Narnia. Et donc, elle revient et elle va raconter à ses frères et sa sœur que voilà ce que j'étais parti tout ce temps parce que j'étais parti à Narnia par cette armoire. Et ils ne comprennent pas trop parce que ça fait bizarre. Donc ils viennent voir, ils vont voir l'armoire, et l'armoire, c'est un armoire normal. Il n'y a rien. Donc ils disent, mais Lucie, tu es en train de te moquer de nous, tu nous fais la bonne blague, ça suffit, ok, c'était sympathique pour un temps, maintenant arrête et reviens sur Terre. Mais elle persiste à croire que si, je l'ai vraiment vécu. Je ne peux pas expliquer pourquoi maintenant on ne peut pas, mais je l'ai vraiment vécu. Alors, et ça pourrit les relations parce qu'elle était tellement persuadée de la chose et eux, ils disent n'importe quoi. Elle se moque de nous, elle insiste même, elle persiste dans. C'était une bonne blague, mais bon, on passe à autre chose maintenant. Mais non. Alors, tellement c'était la situation entre frère et soeur était grave qu'ils sont allés voir leur oncle, le professeur, et ils vont voir leur oncle et ils expliquent notre soeur, elle nous pose des problèmes. Elle insiste à croire qu'elle a vécu tout ça, mais tout le monde sait qu'elle se trompe. On comprend pourquoi elle veut nous faire cette mauvaise blague. Et chaque fois qu'on lui en parle, elle reprend le sérieux, elle même pleure, mais on sait qu'elle... Donc, elle refuse d'avouer que c'était juste une blague. Elle déraisonne. Alors le professeur... Il les a tous pris au sérieux. Il disait, ok, mais vous connaissez votre sœur Lucie. Est-ce qu'elle a l'habitude de vous parler comme ça? Est-ce qu'elle est du genre à faire ça? Est-ce que souvent elle vous fait de telles blagues? Eh bien, ils disent, mais justement, non. C'est que, entre nous, c'est quand même la plus fiable, la plus innocente, la plus sincère de nous tous. Et c'est ça qui nous étonne le plus. Alors il dit, mais alors, pourquoi vous ne croyez pas? Eh bien, parce que tout le monde sait que c'est impossible ce qu'elle raconte. Vraiment? Et puis, après, ils n'ont pas de réponse, et eux-mêmes, ils vont pouvoir vivre. Et donc, c'est ici, parfois, nous, on dit, c'est impossible qu'ils nous racontent de telles choses. Mais qu'est-ce qui nous donne raison? On n'a pas le quoi, finalement, quand ils se présentent comme un historien si fiable. C'est ça la beauté du livre des Actes et des Évangiles, qui nous raconte des choses merveilleuses, effectivement, des miracles, et surtout la résurrection de Jésus-Christ, qui va se refléter dans même d'autres résurrections, comme Lazare, comme Eutychus. Qu'est-ce qu'on fait avec ces choses? Eh bien, on a quand même tout raison de les croire. Donc ça, c'est Luc l'historien. On peut profiter, je pense, de ce passage et de tout le début de l'Église en mesurant la richesse de ce récit historique. Ensuite, il faut écouter Luc le médecin. En Colossiens 4, verset 14, Paul dit que Luc est avec moi, Luc le bien-aimé médecin vous salue. Donc, on apprend de ce petit verset en Colossiens que Luc était un médecin. Ça, c'est très bien. Quel rapport avec notre histoire? Eh bien, justement, si quelqu'un a un malaise, si quelqu'un tombe, si quelqu'un se fait mal, on se tourne vers qui? Eh bien, on se tourne vers le médecin dans la salle. Ce matin, il n'y a pas Anne-Sophie, donc ne tombez pas. Mais en tout cas, s'il y a un médecin dans la salle, on va le mettre au premier rang. C'est-à-dire qu'il va pouvoir témoigner au mieux des choses. Il y avait un article cette semaine dans Le Point. Ça m'a attiré mon regard parce que ça disait qu'ils viennent de découvrir le rapport du premier médecin qui était arrivé auprès du président Abraham Lincoln lors de son assassinat. Cette semaine, ils ont découvert dans les archives à Washington, pour la première fois, ce rapport du premier médecin qui était arrivé sur scène. Et l'article disait, ce qui est frappant dans le rapport, que même cette situation dramatique, le médecin a quand même joué son rôle, et l'article dit, il ne sombre pas dans la sentimentalité. C'était même si c'était le président Lincoln et tout ça, quand le médecin arrive, justement, les médecins savent que ce n'est pas le moment de paniquer ou de partir en hystérie, c'est le moment de traiter la situation et au niveau santé, tout ça. Et c'est ce que ce rapport a pu faire pour Lincoln. Et tout le monde est content de l'avoir pour avoir un récit vraiment fiable des circonstances de la mort du président. Et c'est ce que nous avons ici quelque part. Nous avons le récit du médecin, le premier rapport du médecin qui était sur place. Et son constat, sans sentimentalité ou rien, son constat, c'est que ce jeune homme, il était mort. Verset 9. Et quand on voulut le relever, il était mort. Constat d'un médecin. Mais c'est ça qui rend l'histoire tout aussi riche. C'est que avec ce constat de médecin, on va voir la suite aussi. Et je pense que Luc, en tant que médecin, a dû être marqué par cette histoire. Il a dû trouver l'histoire même pas amusante, mais ça a dû être un bon souvenir pour lui. Parce que le mot Eutychus, c'est un prénom, mais le mot Eutychus veut dire fortuné. Et ce jeune homme Eutychus, il va finalement bien porter son nom. Parce que pour un fortuné, c'est comme ça qu'il a dit, pour un fortuné, c'est pas mal ce qui lui arrive, en tout cas après sa chute. Voilà, on ne va pas trop lui reprocher hein, ce qui lui est arrivé. Ce matin, ne vous sentez pas coupable par ce texte, quand pendant un prédicateur, le sommet arrive, ça peut arriver, comme nous voyons dans la Bible, et on ne va pas trop reprocher Eutychus. D'abord, il est jeune, c'est un jeune garçon. Ça fait 4 heures que Paul parle et on est à minuit, donc déjà. Luc rapporte le détail qu'il y avait beaucoup de lampes, donc beaucoup de lampes à huile. C'était des lampes à huile à l'époque pour bien éclairer la pièce. Et toutes ces lampes à huile, avec la chaleur et la fumée, tout ça, ça certainement crée une atmosphère très, très lourde. C'est pire que nos spots, là, ces lampes à huile, surtout quand il y en a beaucoup. Et donc, on comprend que ce jeune homme cherchait un peu d'air frais à côté de la fenêtre. Et puis, il s'assoit là et il lutte avec le sommeil, comme vous avez tous fait. Et à un moment, il ne lutte plus et il s'endort profondément et puis tombe. Et le drame se produit. Mais Eutychus, fortuné, verset 10, Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Il parlait longtemps, encore jusqu'au jour. Après quoi il partit, le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Donc les deux constats du médecin, Luc le médecin, c'est qu'il était mort. Et puis, deuxième constat, le jeune homme fut ramené vivant et c'était une grande consolation. Oui, ça c'est pas mal d'entendre de la bouche d'un médecin. On nous raconte souvent parfois toutes sortes de guérisons, de résurrections, mais rarement on est prêt à le faire accorder par un constat de médecin. Ici, nous l'avons, le constat du médecin, qui peut attester de la chose. Et je pense que c'est une belle histoire. Hein, ouais, c'était certainement un encouragement pour l'église de Troas. Et c'est un rappel pour nous tous, que nous sommes des fortunés, nous sommes des privilégiés, nous sommes des gâtés. Si vous êtes là ce matin, vous êtes un fortuné. Dieu vous a gardé. Nous sommes des fortunés, non pas parce que nos vies sont livrées à la bonne fortune, au hasard. Nous sommes des fortunés parce que Dieu est là, il dirige tout, même de telles circonstances. Jésus avait dit ce verset, il n'y a pas un seul cheveu de vos têtes qui tombe sans la volonté de mon Père. Donc même Eutychus, c'est plus que un cheveu de sa tête qui est tombé, c'est lui, il est mort. Mais cela faisait partie de la volonté de son Père qui était dans les cieux. Et puis... voilà, il a vécu quelque chose de bien fortuné, comme nous tous, nous pouvons vivre voilà, toute la bénédiction de Dieu quand il nous protège, quand il nous entoure. Et c'est le rappel, toute résurrection dans la Bible, tous ces miracles, pour nous, c'est la preuve qu'un jour, tôt ou tard, de toute manière, nous allons aussi nous connaître notre résurrection avec Christ. Le comble de cet événement... Encore, on ne va pas partir, on ne va pas se laisser glisser dans un... On ne va pas sombrer dans une sentimentalité. Le comble, c'est que ils n'en font pas un spectacle sensationnel, une séance guérison, non. Nous, je pense que vécu ça, on aurait voulu faire un défilé avec Paul ou avec Eutychus en disant, regarde ce qui t'est arrivé, non. Il y a la résurrection, grand miracle. Qu'est-ce que Paul fait? Il remonte à l'étage. Et dit, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Ok, reprenons nos Bibles, et puis on va passer à la Sainte-Seine, et on va continuer. Et il a continué son message jusqu'au matin. Alors là, c'est fort. Je pense que on voit ici que le but du miracle, c'est pas le miracle, c'est jamais ça dans le Nouveau Testament. Le but, le but du miracle, c'est pas le miracle en soi, c'est pour nous rendre plus réceptifs à la parole de Dieu. Et cette église à Troas, qui était réunie ce jour-là, Paul de passage, peut-être certains ne connaissent pas très bien Paul. En tout cas, après cette histoire avec Eutychus, je pense que tout le monde a écouté avec encore plus d'attention, plus de respect, plus d'amour pour le. Plus d'amour pour le Seigneur, je pense que là, personne ne s'est endormi parce que, voilà, tout ce qu'il vient de vivre. Donc, le but du miracle, on le voit bien, c'est pour encore diriger, nous rendre plus attentifs au message de Dieu, à la parole de Dieu, et c'est ce que Paul a pu faire même. Et donc, Luc, l'historien, médecin, qui reste dans les détails, il n'exagère rien, mais il veut raconter les faits, et c'était quand même le sujet d'une grande consolation. Et enfin, nous allons voir Luc, le chrétien. On a vu Luc, l'historien, Luc, le médecin. Et ce qui ressort surtout dans ce passage, c'est ce qui passionne Luc surtout, je pense, c'est toute cette histoire de l'Église, des chrétiens qui avancent dans leur foi. Je pense que Luc va mettre l'accent surtout sur une chose. Il est soucieux de montrer l'amour et l'engagement de Paul auprès des chrétiens. Donc Luc, le chrétien, qui est compagnon de Paul, lui aussi, il est touché par cet amour que Paul a pour les chrétiens, et tous les efforts, tous les voyages, toute l'implication que Paul se donne pour les chrétiens. Parce qu'il y a une réalité, quand on aime Jésus-Christ, on aime sa parole et on aime son corps, qui est l'Église. Quand on aime Jésus-Christ, on aime sa parole, la Bible, et on aime son corps, l'Église. Et c'est ça que Paul nous montre ici, le dévouement de Paul, et il entraîne ses compagnons avec lui, dans Luc, à se donner pour les chrétiens, pour les églises, puisque c'est ça, Jésus-Christ, il a son corps qui est l'Église, il a sa parole qui est l'enseignement. Donc Paul, il se passionne pour exhorter, enseigner ses chrétiens et de voir ses églises devenir plus matures, plus stables. Rien que dans les trois premiers versets du chapitre, on n'a pas beaucoup de détails, mais dans les trois premiers versets du chapitre, c'est pendant ce temps, il y a trois projets majeurs que l'apôtre Paul a pu faire. Luc nous donne pas beaucoup de détails ici, mais en prenant d'autres passages dans le livre des Actes et puis les épîtres que Paul va écrire à certaines églises, on arrive à reconstituer un peu l'histoire. Et là, on peut savoir que ô combien, quand ça dit que verset 2, il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Ou comme notre traduction dit, il a encouragé longuement les frères, beaucoup les frères. Mais ô combien il a beaucoup encouragé les frères pendant cette période. Parce que quand il est parti en Macédoine, comme dit le verset 1, qu'est-ce qu'il a fait, notamment en Macédoine? Eh bien, il a fait une tournée des églises, et dans ces églises, comme nous apprenons en 2 Corinthiens et d'autres passages, il a collectionné une offrande pour l'église à Jérusalem, où il allait se rendre prochainement, et il voulait se hâter même. Donc, il avait cette offrande qu'il a collectionnée de toutes ces églises. Et ça, c'est fort. Paul, il fait une tournée, non pas pour se mettre l'argent dans les poches, mais pour susciter la générosité des chrétiens envers d'autres chrétiens, notamment des chrétiens païens, qui vont pouvoir donner aux chrétiens juifs, qui ne connaissent même pas, mais montrer cette unité, cette solidarité dans la foi. Et c'est ce que fait Paul. Et quand on lit en verset 4 son équipe, les gens qui l'ont accompagné, ce qui est fort, c'est de voir qu'il y a des gens qui viennent un peu de toutes les régions différentes. Sopater de Bérée, Aristarque II de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, Tichique et Trophime, originaire d'Asie. Donc, en fait, tous ces gens qui étaient là pour aider Paul dans la mission, dans l'évangélisation, certainement, ils l'ont aussi rejoint. C'était des représentants de chaque église, des églises qui ont donné, qui ont fait un don. Mais justement, pour montrer toutes sortes de transparence dans ce gestion des finances, voilà, l'Église a trouvé sage d'avoir des représentants des différentes régions pour que, voilà, il n'y a pas de magouille de trafic. Et c'est ainsi que Paul a pu vraiment exhorter, encourager ces églises. Donc c'est beau de voir les églises en Macédoine qui vont être exhortées, encouragées à soutenir d'autres églises et faire tout ça dans, vraiment dans la transparence et dans l'honnêteté. C'est déjà ce qu'il a fait en verset 2. En verset... En verset 3, il dit qu'il se rendit en Grèce où il séjourna 3 mois. Ça, c'est, on ne dit pas encore, mais dans ces 3 mois, Paul va vivre des choses incroyables. C'est toute la saga que Paul vit avec l'église de Corinthe. Et si jamais il y a une histoire dans la vie de Paul qui l'a affecté, qui a fait ressortir son dévouement, son amour, son désir de se donner, de se sacrifier pour les églises, c'est bien ce rapport qu'il avait avec l'église à Corinthe. Parce que à Corinthe, ça se passait pas trop bien. Paul, il reçoit des mauvaises nouvelles. Il envoie une lettre. Après, il y a une visite très difficile qui se passe mal. Il doit repartir. Il doit envoyer une autre lettre qu'on n'a pas dans la Bible, mais une autre lettre sévère qu'il a failli ne pas envoyer tellement c'était sévère. Mais il s'inquiète de la réaction des Corinthiens. Est-ce qu'ils vont partir dans l'hérésie, dans l'apostasie? Déjà, il était attaqué personnellement, accusé de tout. Et il est travaillé par cette situation pendant ces mois en Grèce, c'est ce qu'il va vivre. Et même à un moment, parce que pour faire ses trajets, on traverse certaines villes, donc à un même moment, en allant de l'Asie en Grèce, il passe par Troas, qui est en Macédoine, et il dit aux Corinthiens, aux deux Corinthiens, lorsque je suis arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y ait ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est-à-dire, dans l'histoire, il avait envoyé Tite pour prendre la température à Corinthe et il attendait le rencontrer pour savoir comment ça se passe à Corinthe. Et donc, il se trouve à Troas, une porte large est ouverte pour prêcher l'évangile, mais il ne peut pas, il est tellement affecté et touché par ce qui se passe à Corinthe. Donc, il ne trouve pas Tite, qu'est-ce que je vais faire? Après, il dit plus tard dans l'épître que j'ai trouvé Tite et il m'a apporté des bonnes nouvelles, que vous vous êtes repenti, que vous avez, voilà, que vous avez pris position contre le péché dans votre église. Ça, qu'est-ce que ça m'a soulagé. Ça, c'est Paul. Et on le sait, il dit, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Donc, il avait vraiment toutes ces églises à cœur. Il était prêt à faire tous ses déplacements par amour pour les chrétiens. Donc, le verset 1 en Macédoine, c'est tout ce projet d'une collecte pour les chrétiens à Jérusalem. Le verset 2, c'est toute cette histoire avec l'église à Corinthe, notamment, derrière. Et puis, une autre chose qu'il fait pendant ces 3 mois, petite chose, on va dire, c'est qu'il écrit à l'église de Rome, il écrit une épître à l'église de Rome. Cette épître, c'est ce que nous l'avons, l'épître aux Romains. Alors rien que ça, comme projet, c'est pas mal pour montrer voilà, son amour, son dévouement, sa passion pour l'évangile et pour les chrétiens et pour la gloire de Dieu. L'épître aux Romains qui reste, comme on dit, un des sommets de la Bible dans son exposition, son explication, ses encouragements pour les chrétiens. Et puis si on voulait juste regarder quelques détails aussi dans ce qui se passe à Troas, juste ce week-end à Troas, ce dimanche à Troas, on voit tout l'amour chrétien que Paul avait pour d'autres chrétiens, que Luc veut nous montrer. On sait qu'il veut se dépêcher pour arriver à Jérusalem avant Pentecôte. Donc, entre la fête des pains sans levain et Pentecôte, on a 50 jours. Mais bon, à l'époque, il n'y avait pas des vols, des avions, donc tout est en bateau. Donc, il veut se dépêcher. Ses jours sont comptés. Mais il s'arrête à Troas pour encourager les frères. Il a un long voyage qui l'attend le lendemain. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Toute la nuit, il va profiter pour enseigner. Pour comprendre que si on avait un orateur comme Paul de passage, on pourrait peut-être faire des réunions exceptionnelles pour l'entendre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et son enseignement a duré toute la nuit, minuit, puis jusqu'au jour. Donc, il a un long voyage le lendemain matin, mais ça ne fait rien, il va enseigner, se donner à ses chrétiens. Et puis le verset 13 dit que ses compagnons ont pris le bateau, le navire, nous précédâmes Paul sur le navire et nous fîmes voile pour Assos, où nous avions convenu de le reprendre, parce qu'il devait faire la route à pied. Pourquoi Paul a-t-il fait la route à pied? Très probablement, puisque c'était la coutume de l'époque, c'est que voilà, les amis pouvaient souvent accompagner un voyageur et ils faisaient un bout de chemin avec lui avant de rentrer. Donc Paul va faire la route à pied pour encore prolonger ses instants avec ses disciples, pour les encourager, pour les enseigner, et puis les frères de Troas sont repartis. Il avait peut-être un bout de chemin à faire tout seul où il pouvait s'entretenir avec Dieu, prier, trouver sa force en Dieu pour la suite. En tout cas, c'est beau de voir ce dévouement pour les chrétiens. Et dernier détail, c'est qu'il arrive à Milet. Il sait que s'il va à Éphèse, il n'y a pas le temps de dire au revoir à tous les frères, tous les chrétiens d'Éphèse, parce qu'il avait passé quand même 3 ans avec beaucoup d'amitiés fortes. Donc, s'il va à Éphèse, il va rater le bateau, il va rater Pentecôte, il veut absolument être à Jérusalem. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il veut quand même les voir, il veut quand même les encourager. Donc, il s'arrange pour faire venir au moins les anciens de l'Église. Il fait venir les anciens d'Éphèse jusqu'à Milet. La distance n'est pas trop longue, mais ils viennent. Et nous allons voir ça une prochaine fois, ce discours qu'il livre à ses anciens, un discours, peut-être le discours le plus touchant du Nouveau Testament, où Paul livre son cœur de chrétien, ses prières pour ses chrétiens, et une richesse que nous-mêmes, dont nous allons bénéficier prochainement quand nous étudions ces versets. Tout cela, ça c'est Paul, ça c'est la vie de Paul, ça c'est la vie de Paul, et puis il a inculqué ce dévouement pour les chrétiens à ses compagnons, et Paul a pu toujours dire, imitez-moi dans ce que je me donne pour les chrétiens, je me donne pour les églises, je me donne pour l'évangile, imitez-moi, et c'est ce que ses compagnons ont pu faire dans la suite. Dans tout ça, vous savez, Paul, il ne fait que suivre son maître à lui. Il disait « Imitez-moi comme moi j'imite Jésus-Christ ». Et ici aussi, nous voyons qu'il est vraiment en train d'imiter, de suivre son Seigneur, son Maître. Parce que lui, Paul, qui se passionne pour les églises, qui se donne, qui voyage, eh bien, avant lui, Jésus-Christ aussi c'était passionné pour son Église, pour ses églises. Jésus-Christ, lui, a fait un voyage missionnaire, une tournée missionnaire sur terre pour nous. Pour nous enseigner, pour nous exhorter, mais surtout pour nous ressusciter, pour nous sauver, pour nous ramener vivants d'entre les morts, morts que nous étions. Jésus-Christ, il a sacrifié repos, sommeil, confort, tranquillité, et plus que ça, il a sacrifié sa vie pour nous avoir, pour nous sauver. Paul, il va dire dans son discours aux anciens à Éphèse, il dit « Maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. » Eh bien, Jésus, lui, il savait ce qu'il attendait à Jérusalem, et lui, il est allé, lié, même par les gens, par les soldats romains, pour l'amener jusqu'à la croix, sachant très bien ce qui lui est arrivé. Et il est allé pour nous, pour nous sauver, pour nous donner une pleine assurance, pour nous montrer son amour, son dévouement, son sacrifice pour nous. Jésus-Christ, quand il était sur la croix, effectivement, il a été considéré comme le plus infortuné des hommes, pour que nous soyons, nous, les plus fortunés, les plus privilégiés des hommes, et pour nous ramener vivants. Donc ça, c'est l'histoire que nous pouvons vivre ici avec Luc. C'est cette histoire que Luc veut nous rappeler. On a déjà vu par la Sainte Cène, au cœur de ce culte, au cœur de l'enseignement de Paul, il y avait le message de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. J'imagine qu'après la résurrection de Eutychus, il avait une bonne illustration pour introduire la Sainte Cène en disant « Comme Eutychus est mort et revenu à la vie, eh bien nous voulons nous souvenir ce matin, surtout que Jésus-Christ est mort pour nous et qu'il est ressuscité, et c'est sa résurrection qui garantit la nôtre. » Et c'est l'histoire que Luc raconte, et il va plus loin qu'un historien, il va plus loin qu'un médecin. En tant que chrétien, il nous invite à entrer dans l'histoire, à faire de cette histoire la nôtre. Nous faisons partie de cette histoire, du progrès de l'Évangile et l'Église qui grandit, qui vit sa foi, et nous voulons ce matin aussi bénéficier de toutes les promesses de Dieu à notre égard. Que Dieu vous bénisse. Nous allons terminer maintenant dans la prière.